Bonjour et bienvenue dans ma mobilette de l'espace sur les routes de la musique. Du soufi à l'astrophysicien, de la danse du derviche à la ronde des planètes, de nos cellules aux galaxies, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, nous sommes tous reliés par une vibration, donc par une musique. La musique est proportion, ça n'est pas une vue de l'esprit, c'est un fait. Les notes de notre gamme pythagoricienne sont reliées par des rapports de fréquences harmonieux. Seulement voilà, depuis le grand Albert Einstein, tous les physiciens du monde se cassent les dents à essayer de trouver une théorie unificatrice entre le monde quantique et le monde gravitationnel, le monde de l'infiniment grand, que tout oppose. Et ça, c'est bien embêtant, parce qu'il ne saurait exister deux lois différentes pour le monde du grand et pour le monde du petit. Et si la musique était la clé, si c'était la même intuition musicale qui guidait John Wheeler, le physicien qui nomma les trous noirs, et Rumi, le soufi qui inventa la danse des derviches. Allez, en route pour la transe du monde, que la voie lactée nous guide vers la musique des sphères ou celle de Cameron Avery qui nous chante « Dance with me ».
France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.
With a sonnet of your sorrow, take my hand, 'cause I'll be your man. We'll never have to borrow. Or steal a star. No, it's not that hard if you just dance with me. Walk with me. Talk with me. I'm only flesh and marrow. I'm just a call away, and I'm just a plane by day. If you'll just dance with me, these lips ain't just for talking, and these boots ain't just for walking. Won't you dance with me? Walk in the moon. It's a way to do away with all tomorrow's pending doom. I'm not half as drunk as you first thought, so hold me close and I'll just rock you back and forth. You just dance with me. We ain't getting any younger. Dance with me. Aren't you tired of my gawking? And I've not the time for talking. Won't you dance with me? These lips ain't just for talking, and these boots ain't just for walking. Won't you dance? Sure, I'm a lonely fool.
Dance With Me par Cameron Avery, le bassiste du groupe australien Tame Impala. La danse déracine le pied du fidèle de la boue terrestre afin de l'acheminer vers la cime du monde. Ainsi parle le derviche, celui qui a fait vœu de pauvreté et qui a choisi la musique pour aller vers la sagesse. L'ouverture d'esprit des soufis leur fait croire qu'au fond, Dieu est partout et qu'importe le chemin pour y parvenir. Mais cette ouverture leur a posé bien des problèmes. Et sans doute est-ce pour cela qu'ils furent toujours solidaires de tous les opprimés. Récemment encore, ils furent la victime de l'État islamique au Pakistan. En novembre 2016, une attaque suicide dans un sanctuaire soufi a fait 52 morts. En février 2017, un kamikaze se fait exploser dans un sanctuaire bondé, faisant 75 morts et 300 blessés. En 1915, pendant le génocide arménien perpétré en Turquie qui fit 1,5 million de victimes, de nombreux monastères soufis furent des refuges pour les chrétiens persécutés. Difficile de croire que ce mouvement bienveillant et sa douce manière de célébrer l'extase du monde puissent provoquer une haine aveugle, dévastatrice et aussi bête. De tout temps, les religions ont tâché de régenter la musique quand ils ne la condamnent pas carrément. Au fond, ils ont raison. On peut même leur connaître une qualité aux fanatiques de tous bords, celle d'avoir saisi l'essence de la musique, sa magie, son pouvoir surnaturel. Voilà, c'est dit, celui qui joue prend le pouvoir sur celui qui écoute. Et les prêtres jaloux n'aiment pas le partager, ce pouvoir qui guide vers le monde spirituel, leur monde, du moins le voudrait-il. Pourtant, la musique est la nourriture de celui qui aime, dit Rumi, le fondateur de l'ordre des derviches. Elle seule a le don de transmettre l'émotion pure, la vibration de l'émetteur, le musicien, au récepteur, l'auditeur, est la même. Celui qui écoute vibre sous l'archet du violoniste. Il ne s'appartient plus, il est comme dessaisi de lui-même, il est littéralement envoûté. Au mieux, il sort de son corps, c'est la définition de l'extase. Au pire, il est pris de danses convulsives et redécouvre son animalité. Ce sont les deux fonctions de la musique. Cet art est à la fois apollinien et dionysiaque. Il élève vers le monde de l'esprit et nous ramène par le rythme à la pulsion de la terre. Ainsi parlait Nietzsche dans La naissance de la tragédie. Par le chant et la danse, l'homme manifeste son appartenance à une communauté supérieure. Il a désappris de marcher et de parler, et dansant, il est sur le point de s'envoler dans les airs. Ses gestes disent son ensorcellement, il se sent Dieu, il circule lui-même, extasié, soulevé, ainsi qu'il a vu dans ses rêves marcher les dieux.
Nietzsche vous remercie pour cette lecture, André, et voudrait rajouter quelque chose au sujet de la musique. Nietzsche, on vous écoute.
Je ne m'adresserai pas à ceux qui, pour ressentir l'émotion musicale, ont besoin de faire appel au jeu de scène, aux paroles et aux passions. Car la musique n'est pas leur langue maternelle. Je ne m'adresserai qu'à ceux qui ont un lien direct avec la musique, ceux dont elle est en quelque sorte le sein maternel, et qui n'ont presque avec les choses que des relations musicales.
Nous sommes tous ici en lien direct avec la musique. Alors allez-y, Nietzsche, dites-nous tout.
La musique, pour Nietzsche, est présentée comme un langage capable d'interprétation infinie, d'un langage plus profond que le langage, disons un langage primitif qui exprime le fond de l'existence.
La musique peut être reçue et comprise par tous, et ce depuis la nuit des temps.
Et en revanche, le langage est présenté comme quelque chose de second, de dérivé, de beaucoup moins originaire donc, et qui en dit moins sur ce qui est.
Nietzsche se tait maintenant et laisse place à la musique et à la danse avec Transglobal Underground, qui reprend un chant traditionnel soufi. Dans le cercle des danseurs, il y a Natasha Atlas.
Yeah.
Transglobal Underground, le collectif londonien dans lequel la chanteuse était Natasha Atlas, qui nous chantait Ali Moula.
Les routes de la musique. André Manoukian sur France Inter.
La musique pour Nietzsche est essentielle à l'homme, mais il n'y a pas de musique sans terre. Toute musique est enracinée dans une terre. Sur mon pied de danse, tu jetas un regard de balancelle, qui rit, qui interroge et qui fait fondre. Deux fois seulement, de tes petites mains, tu fis mouvoir ta crécelle. Déjà se balançait mon pied dans sa rage de danse. Mes talons se cabrèrent pour écouter se tendirent mes orteils. Son oreille, le danseur ne la porte-t-il pas sur ses orteils? Ainsi parlait Zarathoustra au chapitre « Le deuxième chant de la danse ». Si la vibration du monde vient de la Terre, elle vient aussi du cosmos. Ça, ce ne sont pas les mystiques, ni les soufis, ni les fils de Platon, ni même les musiciens qui en parlent le mieux, mais les physiciens quantiques. Voici ce que nous dit l'un d'entre eux, Marc Henry, professeur à l'Université de Strasbourg. Au commencement était le Verbe. Bim, voilà qu'on se prend l'évangile de Saint Jean en pleine tête. Continuons son raisonnement. Au commencement était le Verbe. Donc, au commencement était le son. Le son est le véhicule de la parole, et la parole véhicule de l'information. Donc, au commencement était l'information.
Résumons. Au commencement était le vent dans les arbres. Au commencement était le chant d'un oiseau. Et puis vint la parole. Et à la suite de la parole vinrent les informations.
BFM TV, ce sont des journalistes que vous voyez tous les jours et tous ceux qui travaillent en coulisses pour vous proposer la meilleure information.
Au commencement était l'information. Mais où voulez-vous en venir, André ?
Vous allez voir, Elsa, on y viendra. Mais puisqu'on est dans les physiciens, commençons avec le père des trous noirs, celui qui s'en approcha le plus, du moins par la théorie, John Archibald Wheeler. Il fut le dernier collaborateur d'Einstein et s'attacha à résoudre les contradictions sur lesquelles travaillait le grand Albert sur son lit de mort. Mais pas plus qu'Albert, John Archibald ne put résoudre les contradictions de la relativité générale avec la physique de l'infiniment petit, que l'on pourrait résumer ainsi. Les lois de la gravitation à l'échelle des planètes ne marchent pas dans le monde quantique, dans lequel une particule peut tour à tour prendre deux états, matière et énergie. John Archibald Wheeler, malgré cet échec, fit grandement avancer sa discipline. Voici ce qu'il déclarait à la fin de sa vie. Je crois que ma vie en physique se divise en trois périodes. J'ai d'abord cru que tout était fait de particules. Dans ma seconde période, que tout était fait de champs vibratoires. Dans cette troisième, mon impression est que tout est fait d'informations. Snakes in my shoes, walking sleep.
le groupe de Seattle Soundgarden qui nous chantait Black Hole Sun. Mais ils ne croyaient pas si bien dire les Soundgarden. Black Hole Sun, ça se traduit par soleil du trou noir. Or, John Archibald Wheeler, le père des trous noirs, aimait dire qu'un trou noir se définit comme une source de lumière. Approchons-nous du trou noir et observons.
Attention André Cohen, il ne faut pas aller trop près du trou, c'est trop dangereux.
Un trou noir est une étoile invisible d'une incompréhensible densité. Le voyageur imaginaire qui s'en approche devient la victime des lois de la gravitation. Ses cheveux se dressent sur sa tête de plus en plus légère. Son corps, d'où toute conscience a déjà disparu, s'allonge, se transforme en viande hachée, en molécules, en atomes.
Être mâché par un trou noir et disparaître ? Mais comment cela est-ce possible ?
Et le trou noir, c'est l'idée qu'il puisse y avoir des corps dans l'univers tellement massifs ou tellement denses qu'ils vont creuser un puits infiniment profond, voire même un trou. Ils vont crever le tissu élastique de l'espace et du temps. Une fois qu'un trou noir est formé, eh bien, si on franchit le bord du puits, eh bien, on tombe au fond du trou.
Et alors, que resterait-il de nous ? Rien ? Rien du tout ?
Tout ce qui tombe dans un trou noir perd son identité. Une fois qu'ils sont réduits en particules, il n'y a plus de différence entre une femme, un grille-pain électrique, une poêle à frire, un téléviseur, une banane, un accélérateur, une sauce béchamel.
André, vous ne voulez pas vous transformer en banane ou grille-pain électrique. Alors allumez la lumière et faites gaffe de ne pas nous faire tomber dans le trou.
Ok, ne nous approchons pas trop, nous allons simplement les observer et de loin, c'est plus sûr. Voilà ce qu'il nous dit, John Archibald Wheeler. Observer un trou noir, ça n'est pas seulement le regarder, c'est être relié à lui par une sorte de ruban en forme de U, comme le U de univers. Celui qui observe est donc relié par un ruban à ce qu'il observe. En fait, le ruban, c'est l'information qui circule. Et s'il prend le trou noir en exemple, John Archibald Wheeler, c'est exprès parce que c'est la pire horreur à observer, un trou noir pour un physicien, ça avale tout, même la lumière. Ce faisceau d'informations qui nous relie à l'objet fait que nous sommes à la fois la chose observée et la chose qui observe. On ne peut séparer l'observateur de ce qu'il regarde. Son credo, John Wheeler le dit en anglais, « it from bit ». Le mot bit est la contraction des mots anglais binary digit qui signifie chiffre binaire. Avec un jeu de mots sur bit, petit morceau. Just a little bit of cheese, please, juste un petit morceau de fromage. Et le it, c'est le ça, la chose, la matière. It from bit, ça veut dire la matière naît du bit, de l'information. L'information gouverne la matière. C'est bien la science du 21e siècle. Revenons à John Archibald Wheeler et à ses trois credos successifs. Au début, je pensais que tout était particule. La particule, c'est l'état le plus petit de la matière. Puis que tout était champ vibratoire. Autrement dit, tout était onde, vibration, énergie. Puis enfin, j'ai compris que tout était information. Et nous voilà dans un état qui n'est ni une particule, ni une onde, mais quelque chose de totalement désincarné et qui pourtant dirige tout. Car l'information est immatérielle. Pour s'exprimer, elle a besoin d'énergie et cette énergie va déclencher un mouvement.
The very last breath. The very
Électroproducteur londonien d'origine autrichienne qui nous chantait The Wheel. Normalement, on devrait prononcer zone, mais bon, je l'ai fait à la française parce que voilà. Hein.
André Manoukian, les routes de la musique sur France Inter.
Au commencement était le verbe, donc l'information. L'information est au commencement de tout. Elle circule dans l'espace et le temps, elle se répand dans le vide. Le vide est la condition du mouvement. La vie qui est mouvement privilégie le vide et minimise les masses. À l'échelle macroscopique, l'univers est fait de 5% de masse et 95% de vide. À l'échelle microscopique, les atomes sont faits de 99,9% de vide. À l'intérieur même du noyau d'un atome qui est pourtant la partie la plus dense, les éléments, les quarks, les positrons, les gluons se baladent dans le vide. Et que dire de l'électron qui tourne autour du noyau dans un rayon qui, si on ramenait proportionnellement le noyau à la dimension d'une balle de tennis, il ferait combien le rayon ? Il ferait combien le rayon ? Il ferait 3 kilomètres. Démocrite l'avait bien dit au 4e siècle avant Jésus-Christ. De retour des Indes, ce philosophe grec fondateur du matérialisme et que Platon prit en grippe au point de vouloir brûler ses livres. Oui, le grand Platon, inventeur de l'idée, de l'idéal d'un monde de l'esprit où seul règne la vérité, voulait cramer les livres de Démocrite parce que celui-ci disait « Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'univers est fait d'atomes et de vide ».
Bah alors là, nous, on n'est vraiment pas sûr de tout comprendre à ce que dit André. Et du coup, on tombe dans l'immensité du vide.
Ah ! Au début, était le vide.
Mais qu'est-ce que le vide, sinon le rien ?
En fait, ce vide n'est jamais totalement vide. Bien que très très vide. Et puis en plus, il est plus ou moins vide, si tu vois ce que je veux dire.
Bah alors, il n'est pas vide ?
Le vide est plus subtil que le néant. Il apparaît vide juste parce que nos yeux d'humains ne permettent pas de voir ce qui s'y passe.
Nous définirons donc le vide comme un état indétectable, à les apparences de l'absence. Cependant, à l'échelle ultra-microscopique, il est totalement habité. Si vous voulez, à l'échelle quantique, c'est un véritable océan. C'est un océan de particules. Les particules qui émergent de l'océan du vide pour y retourner aussitôt sont comme des poissons volants qui s'élèvent au-dessus du flot et qui y retombe.
Eh bah dis donc, il y a tout ça dans le vide.
Eh oui, le vide est habité, bien sûr. Le néant, s'il est difficile à concevoir, c'est peut-être parce qu'il n'existe pas et que le vide est rempli de vibrations, d'énergie qui ondulent à l'infini en se répandant à des vitesses bien supérieures à la vitesse de la lumière. L'onde annihile le vide, elle occupe tout l'espace. Une onde, c'est l'antimatière. Une onde occupe tout l'univers. Reprenons la phrase de ce bon vieux John Archibald Wheeler. Au commencement, je croyais que tout était particule, puis que tout était onde, et finalement, je crois que tout est information. La particule, c'est la petite brique qui fait la matière. L'onde, c'est l'énergie qui se transporte en ondulant, qui a besoin de temps et d'espace. Une information, ça se transmet instantanément. Mais ce qui nous préoccupe, nous, c'est le son. Or, le son, c'est pas de la matière, mais c'est du mouvement. Le son, c'est une vibration. Mais qu'est-ce que la matière, sinon une vibration. L'électron tourne autour du noyau à une telle vitesse que la seule manière de le localiser, c'est de définir par une onde avec des probabilités de présence dans une orbite. Alors si on est à l'écoute, ça chante de l'infiniment petit à l'infiniment grand, la fameuse musique des sphères dont je vous ai déjà parlé. Mais chut, écoutons la vibration du monde.
I was never really into music till I was about 9 years old. But now I can't control myself from grooving. It is time for me to show. Cause today, oh, I'll show ya, I'll blow ya. Always on the run, I tell ya, it was not an easy road. But now I'm ready to bring joy and fire, the best things in life for sure. Cause I do know what it's like to feel sad all the time. But you see, wicked vibes bring that joy in your life. Cause today, oh, I'll show ya, I'll blow ya. And it gets me up again and again and I feel like I'm flying. It lifts me up again and again and do you know what it can do to you? Crazy vibes. You must know what it can do to you. Crazy vibes. It's the day. I'll show ya.
Les électrons, les planètes, la touillette dans ma tasse à café et en musique, ça donne quoi ?
En musique, ça donne quoi ? Justement, l'expression « ça tourne » est une expression typiquement musicale. Et qu'est-ce qu'on dit quand on dit « ça tourne » ? En fait, on parle plutôt d'une rythmique. C'est-à-dire, quand une rythmique balance bien, quand une rythmique nous prend, on dit waouh, ou quand des musiciens jouent super bien ensemble à tel point que on a l'impression qu'ils sont plusieurs mais comme un seul homme, et ben là on dit ça tourne. Alors ça veut dire quoi ça tourne ? Ça veut dire que la rythmique fonctionne et qu'elle est tellement bien huilée qu'on a l'impression que c'est un seul et grand mouvement.
Comment on fait une rythmique qui tourne? Vous allez prendre trois petites notes, au hasard. Et puis, on va les répéter sans arrêt. Les répéter sans arrêt en boucle et puis on va leur adjoindre une harmonie finalement. C'est-à-dire que autour de ces trois notes, on va faire une descente d'accord. Et c'est cette descente d'accord qui va donner la cadence et le repère et qui va mesurer le temps fort. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Et le son que vous entendez derrière, c'est les vibrations du cosmos qui ont été ramenées à l'échelle des variations audibles par l'oreille humaine. En gros, on a la vraie musique des planètes sur laquelle vous pouvez vous exercer. Ajoutez votre tournerie à vous. En gros, on accorde tout ce qui tourne ici, chez nous, avec ce qui tourne là-haut. On va prendre une rythmique avec quatre notes. Donc, comme j'ai pris trois notes, fatalement, j'étais dans un rythme ternaire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va prendre avec cinq notes. Alors là, ça se complique parce que fatalement, on va être dans un rythme impair. Alors, 1, 2, 3, 4. 4, 5. Sauf que le problème, c'est que ma main gauche, je la mettais sur le sixième temps. Donc du coup, j'avais une sorte de polyrythmie. Alors si je mets ma main gauche sur le premier temps des cinq notes, vous me suivez, je fais cinq notes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Pour que ce soit plus facile, je vais décomposer le rythme à cinq temps parce qu'on n'a pas l'habitude, nous. De ces rythmes-là, on va faire 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Et me voilà avec un rythme impair. Je fais maintenant à 6 temps, ça retombe sur 3. Si je fais à 7 temps, alors je vais décomposer encore une fois. Je vais faire 1, 2, 1, 2, et puis 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1. Thank you. quel chiffre et à essayer de le faire tourner avec la musique du cosmos.
Round up.
Oui, décidément, tout vibre, vibing out, c'est ce que nous chantait FKG. FKG, ça veut dire French Kiwi Juice.
Les routes de la musique, André Manoukian, sur France Inter.
Et nous voilà dans le mystère des ondes, des good vibrations. Nous voilà dans le lexique mystique des musiciens qui date des glorieuses 70s psychédéliques où les Beatles découvraient Krishna, les Beach Boys chantaient good vibrations. Tout vibre, tout bouge, la vie et le mouvement, tout chante et tout danse, des planètes aux atomes en passant par les derviches tourneurs. Alors tâchons de la décortiquer aujourd'hui, cette good vibration qui exerce son charme dans chaque recoin de l'univers, pourvu qu'on soit à son écoute. Et pour être à son écoute, il faut adapter des outils. Même si l'homme est la seule créature vivante pourvue d'un larynx, c'est-à-dire d'une machine à fabriquer des sons intelligibles et porteurs d'informations, son oreille n'est que faiblement équipée pour être à l'écoute de l'univers. Nous ne captons que les fréquences audibles entre 16 et 20 000 Hz. Mais si nous nous souvenons du principe de Pythagore, qui associe à une fréquence un son, par la magie de la transposition en octave, nous pouvons ramener les très hautes fréquences de l'espace à des fréquences captables par l'oreille humaine. C'est ce jeu auquel se sont prêtés les artistes anglais Ruth Jarman et Joe Gerhardt à travers leur œuvre Semi-conducteur. Ils ont placé des capteurs électromagnétiques dans l'atmosphère terrestre pour capter les variations de champs magnétiques et de champs électriques de notre planète. Et par transposition d'octaves, ils ont transformé ça en ondes sonores écoutables. On écoute. Et voilà la symphonie sans tonalité en provenance directe du cosmos via un résonateur sonore qui est la Terre. La musique produit des effets mesurables et tangibles dans chaque cellule de notre corps. C'est Thalès, le mathématicien grec qui a inventé son théorème devant une pyramide égyptienne, qui a découvert en 600 avant Jésus-Christ l'électricité. En frottant certains objets avec de l'ambre, on pouvait faire apparaître des forces entre ces petits objets. Or, ces forces emplissent tout l'espace. On a parlé de champs magnétiques parce que dans l'île de Chios, il y avait une pierre noire, Magnès en grec, qui induisait un champ magnétique. Et puis plus tard, on a découvert que lorsqu'on déforme des cristaux, la pression, en grec ça se dit piezaïn, crée une variation de charge qui crée une onde électromagnétique. L'effet va être appelé l'effet piézoélectrique. C'est le principe du microphone dans lequel je vous parle et du haut-parleur grâce auquel vous m'écoutez. Ah, test, test.
La voix d'André voyage du micro du studio 621 de France Inter à votre cuisine ou votre voiture, puis à vos oreilles et à vos os.
Veuillez écouter quelques
messages personnels.
1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est bon ? Ça rentre dans le micro ? Ça rentre dans vos oreilles ?
Que celui qui a des oreilles entend.
Aujourd'hui, étudions le chemin du son.
Pour la radio, on utilise un courant alternatif dans une antenne. Le va-et-vient des électrons va engendrer une onde électromagnétique qui se propage à la vitesse de la lumière. Elle va faire bouger les électrons dans les antennes à distance. Ainsi, on peut communiquer de l'information.
Vous entendez ?
Approchez votre oreille gauche.
C'est le son des électrons qui voyagent.
Et pour les ondes électromagnétiques alors ? Eh bien, c'est tout simplement les champs électriques et magnétiques qui sont perturbés. L'onde est capable de parcourir l'air, les solides ou même le vide en perturbant ces deux champs. Et c'est grâce à ça que nos différentes technologies sans fil fonctionnent. En effet, elles émettent et captent ces perturbations grâce au mouvement des électrons dans des antennes. Le va-et-vient d'un électron engendre une onde électromagnétique. Et les variations à distance des champs électriques et magnétiques vont en retour faire bouger d'autres électrons.
Et c'est ainsi que la voix d'André arrive à vos oreilles. André, profitez donc de ce pouvoir pour nous en dire un peu plus sur la pénétration de votre voix dans nos oreilles.
La pression sonore exercée par ma voix sur le micro est transformée en signal électrique qui voyage et va faire bouger un cristal piezo qui va animer la membrane de votre haut-parleur et ainsi transmettre une onde sonore à vos tympans. C'est exactement la même chose qui se passe à l'échelle de nos cellules. Elles réagissent en transformant les ondes sonores en signal électromagnétique qui va se répandre dans tout notre corps. Ainsi, la musique n'agit pas seulement sur nos tympans, mais dans l'intimité absolue de nos corps en produisant un mouvement à l'intérieur de nos cellules. Mouvement, en latin, ça se dit « motio ». Et ce mot est à l'origine du plus beau mot de notre langue, émotion. Du derviche tourneur à nos galaxies, en passant par l'intérieur de nos cellules, nous sommes tous reliés. Il serait grand temps de l'admettre, non ? Nous vivons tous dans la même maison. Home, c'est ce que nous chante Edward Sharpe and the Magnetic Zeros. Voilà, ainsi s'achève notre émission. Maxime Ingrand était aux manettes, Fanny Beaumont était au gouvernail, Elsa Denac était la voix du cosmos. Et pour retrouver les titres des belles chansons programmées par Muriel Pérez, n'hésitez pas à aller sur le site de notre émission sur franceinter.fr. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.